pense que c'est quelques personnes qui ont permis de essayer un peu ou de lancer. Vous allez avoir le cœur vraiment disposé à recevoir ce soir cet enseignement que l'Église va nous apporter. Cet enseignement qui va être l'édification avec des thèmes que je vous ai tendus. Puis, un chant, quand on le chante, ça peut être des belles paroles, mais on peut demander au Seigneur qu'il puisse nous aider à comprendre que c'est aussi une prière, que c'est aussi une façon de lui offrir des louanges. Et puis, dans les mots qu'on vient de chanter, je crois qu'il y a de la réflexion à faire sûrement sur beaucoup, beaucoup de ces systèmes, de beaucoup de ces paroles qu'on vient de dire. On peut essayer de dire dans une façon d'action de grâce, finalement, renonçons simplement ce que j'ai dit. Avant de continuer avec un deuxième chant de louange, j'aimerais tout de suite sécuriser quelques personnes qui ont peut-être ont été défoncés mercredi dans la nuit. Et puis, les gens ont apporté des choses que les ici, là. Donc, en plus de ça, été chez Joseph. Peut-être que c'est une coïncidence, on ne sait pas, je sais. Mais ce qu'on peut vous assurer, c'est qu'il y a plus de listes d'assemblées qui vont être ici affichées sur les murs ou qui vont gagner quoi que ce soit. Pour éviter que les gens qui pourraient éventuellement faire la même folie, avoir le nom des gens de l'Assemblée, des choses comme ça. Donc, ces listes-là ne sont plus ici. Donc, si vous avez des appels à faire le dimanche ou d'autres temps de la semaine que vous êtes ici, apportez vos listes vous-même et gardez-les avec vous. Ensuite, j'aimerais qu'on puisse prendre quelques instants pour souligner un anniversaire spécial pour les bourdons, Jean et Diane, qui est leur anniversaire de mariage ce soir. Donc, donc, tout de suite, je vais vous donner le programme de la soirée. On a le premier thème que notre frère Jérôme va nous partager ce soir, c'est Dieu dans le cœur. Dans le sens de l'édification. Et puis, ça va durer l'enseignement environ 1h30. Et puis, par la suite, il y aura une période de questions. À la fin de ça, pendant 1h30, notre frère va nous apporter la parole de Dieu. Et puis on terminera par le chant vers lequel. Demain, Dieu voulant, on arrive ici à 14h, on va voir la suite de cet enseignement-là, qui est Dieu dans la famille. Et puis en terminant, demain soir, vers 19h30, il y aura au départ de la soirée une demi-heure de temps musical. Il y a des prédateurs de l'Assemblée qui ont pris le temps pour pratiquer cette semaine quelques chants. Et puis, ils vont nous passer un peu des chants de louange. Et puis, avec ça, Léon, notre frère Sébastien va compléter son enseignement d'édification avec Dieu dans l'Assemblée. Donc, je crois que c'est pour nous une occasion cette semaine d'avoir de la nourriture qui nous vient de la parole de Dieu et puis qu'on puisse, après ça, demander au Seigneur qu'il puisse l'appliquer dans nos vies, dans nos cœurs, ainsi qu'on ne soit pas des enfants de Dieu du dimanche matin et du même jour du soir de prière, mais que ça puisse être constant dans nos vies par rapport au Seigneur que nous donnons. On continue ce temps d'introduction avec le chant numéro 263. Se ressembler encore une fois. Il y a des belles paroles dans ce chant-là. On puisse le chanter avec l'attitude d'adoration. de la parole de Jésus dans 1 Corinthiens, chapitre 3. Après ça, je vais dire. 1 Corinthiens, chapitre 3. À partir du verset 9. Paul écrit au sein de la parole et puis on peut voir qu'il a souligné. Donc il dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le sang de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un seul architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus. Donc c'est ce Jésus-Christ qui est venu à nous en premier, qui nous a aimés en premier, qui a accepté d'aller jusqu'à la mort de la croix pour nous. Et qu'on est là ce soir, dans les temps, pour être enseigné à partir de cette parole. Donc je vais tout de suite laisser la place à notre frère M. Latine pour nous apporter cette question.
Pour ne pas l'oublier, je voudrais tout de suite me décharger d'une commission qu'on m'a demandé de vous faire. J'étais dans la Bitibi jusqu'à mercredi et dans l'Ontario et nous avons eu une retraite à Earth. Je pense que quelques personnes ici connaissent des amis de cette assemblée d'Earth. Ça me fait penser un peu à vous quand j'étais là-bas parce que on aurait dû faire l'inauguration de leur salle qui est très belle aussi et il y avait encore quelques difficultés, alors on a remis la chose, mais je suis quand même allé pour édifier cette assemblée plus que pour l'ouverture d'une salle. Je crois que c'est plus important qu'il y ait d'abord des pierres vivantes qu'une belle salle, car j'ai remarqué combien Satan, quand l'œuvre de Dieu se manifeste, fait tous ses efforts pour troubler ceux qui ont travaillé même à l'édification de cette salle. Et j'étais vraiment très peiné et sur mes genoux en voyant cette œuvre de Satan qui cherche à diviser les plus intimes amis, ceux qui ont été ensemble pour œuvrer, qui ont donné de leur temps, de leur argent, et puis quand la salle est prête tout à coup, eh bien, il y a des malentendus, il y a des médisances, des heures ont été froissées, ont poussé leur mari à ne plus venir, et c'est quelque chose de vraiment pénible de voir cela. Quand la salle est prête, alors, il y a le grand diviseur pour empêcher la manifestation de ce que l'Esprit de Dieu voulait faire pour pouvoir rassembler les âmes. Alors, je vous dis cela simplement en passant pour que peut-être vous aussi, vous puissiez veiller pour ne pas vous laisser diviser, parce que comprenez le bien. On ne peut jamais justifier nos divisions par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lui, il nous sépare du mal du monde, mais jamais de nos frères en Jésus. C'est toujours la chair, qu'on le veuille ou non, qui est à l'origine des divisions entre frères et filles. Et cette chair, voyez-vous, elle doit rester crucifiée, elle doit rester à la croix. Et chacun de nous, quand nous sentons cette manifestation charnelle en nous, nous devons immédiatement nous en juger. Nous ne devons rien tolérer en nous que le Seigneur n'approuve. Et cela, vous pouvez le savoir très facilement si vous vivez et dans la présence du Seigneur. Si vous n'avez pas que des versets bibliques dans vos cœurs, mais si vous avez vraiment une personne, quelle personne? Jésus lui-même. Alors, plusieurs professeurs m'ont prié de saluer votre assemblée, les amis qu'ils peuvent connaître. Et lundi, dans l'après-midi, Gaston Jolin venait me prendre et puis nous faisions une course à cheval sur les nuages parce que le temps était très mauvais et dans son petit avion, ce n'était pas très réjouissant. Mais enfin, on est quand même arrivé à nous poser finalement près du camp, je disais, sur le lac au Pachatica, et le soir, 2 heures après, nous avions la réunion à Relais. De sorte que les amis de Relais, en particulier les Jolins et d'autres, les Lemay, enfin ceux que vous connaissez, ont demandé aussi de vous saluer. Et mardi soir, alors, nous avions une réunion groupant des chrétiens de différents endroits à Rouen, dans le sous-sol du pasteur Ménonite qui se trouve là à Rouen. Et plusieurs amis qui étaient autrefois dans l'assemblée de Rouen qui a passé aussi par de terribles troubles se réunissent là. Et pour la première fois, les amis de Relais étaient aussi là. Ils ont voulu m'accompagner et nous avons eu vraiment une bonne communion fraternelle et là aussi ces amis m'ont prié de vous saluer. Et maintenant, nous voudrions demander au Seigneur qu'il nous inspire et qu'il nous fasse éprouver que les moments que nous passons ensemble ici valent mieux que 1000 ailleurs. Il y a un verset qui dit un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Eh bien, nous demandons que cette heure que nous passons ensemble ici pour méditer la parole de Dieu vaille mieux que 1000 heures passées ailleurs ou dans le monde. Dieu notre Père, tu sais que nous ne sommes pas ici pour nous-mêmes, mais que nous sommes venus pour être simplement ton témoin, ô notre Dieu, Dieu vivant et vrai, Dieu qui veut habiter non pas dans des maisons de pierre, mais dans des cœurs de chair. Et nous voulons te demander que ce soir, d'une façon toute particulière, tu nous montres par la puissance de ton esprit que c'est vraiment dans nos cœurs que toi, le Dieu vivant, Père, Fils et Saint-Esprit, tu veux Dieu unique manifesté en trois personnes, ajouté dans l'homme tout entier, dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps. Nous avons soif, dans un tel monde, d'être entièrement possédés par le Dieu vivant. Nous ne voulons pas simplement confesser que Jésus est notre sauveur, mais nous voulons le reconnaître comme notre Seigneur. Et si nous l'aimons, nous savons que tu nous as promis, ô Jésus, que tu nous ferais connaître cette plénitude de Dieu en nos vies. Tu l'as dit dans ta parole. Celui qui garde mes commandements, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Nous voulons te demander que ce soir, nous puissions comprendre tout dont nous réjouissons de ce lieu qui nous permet ce rassemblement, que là où nous sommes, individuellement, il y a un temple. Que chacun de nous, nous sommes ton temple. Nous sommes que ceux qui nous voient, que ceux qui nous rencontrent, devraient pouvoir te rencontrer toi-même. Si tu habites dans nos cœurs par la foi, révèle-nous cette plénitude et que ta grâce et ta bénédiction nous soient accordées à tous selon nos besoins pour la gloire du Père au nom du Fils et par la toute-puissance du Saint-Esprit auquel ce soir nous voulons nous abandonner totalement. Amen. Eh bien oui, mes amis, notre Père vous a annoncé nos trois sujets pour cette petite retraite que nous faisons ensemble dès ce soir, demain après-midi et demain soir. Mon premier message, je l'ai intitulé « Dieu de nos cœurs ». Puis nous avons pensé que nous pourrions ensuite passer demain après-midi à Dieu dans nos familles. Et enfin, le soir, comme une préparation du culte d'adoration que vous aurez dimanche matin, je ne pourrai pas être là puisque je prêche à Parnam ce matin et ce soir du dimanche prochain, eh bien, ce sera Dieu dans l'Église ou dans l'Assemblée. Et avant de quitter mon domicile ce soir, je lisais dans l'Épître aux Romains cette parole de Paul et j'aurais voulu qu'elle soit vraie pour moi. Paul disait aux Romains que quand il irait à Rome, il savait qu'il irait dans la plénitude de la bénédiction. Sa présence à Rome serait pour les croyants de Rome une bénédiction, pas une petite bénédiction, mais une pleine, une entière bénédiction. Et dans la foi, non pas parce qu'il est sûr de lui-même, mais parce qu'il est sûr de son Dieu, il peut leur écrire, « Quand je viendrai à vous, je viendrai dans la plénitude de la bénédiction du Christ. » Et c'était le vœu de mon cœur. Et étant un peu fatigué, j'ai remis ce trajet dans la nuit au Seigneur. Je suis bien venu une fois de jour ici, mais de nuit, un vendredi soir, il y avait déjà la cohue le long de la route que j'avais pris. Et j'ai éprouvé que le Seigneur était là pour nous garder sur notre droite, sur notre gauche, devant et derrière nous, et il m'a conduit ici, et je l'en bénis. C'est déjà avec reconnaissance que nous sommes ici, sans accrochage, parce que vous savez comme les gens conduisent, comme certaines personnes conduisent. J'espère que vous n'êtes pas de ces personnes-là, car si Dieu habite dans votre cœur, il influence aussi votre manière de conduire. Et il vous fait penser aux autres. Dieu ne fait de mal à personne, mais il fait toujours tout pour le bien de tous. Dieu dans les cœurs. Je vais vous lire un texte C'est une parole qui était sur les lèvres d'une femme juive il y a quelques années, alors que je prêchais une retraite sur le mont Carmel en Israël. Et c'était cette parole des Proverbes au chapitre 23e, verset 26e, verset bien connu, où le Seigneur parle et dit ceci: mon fils, ça peut être aussi ma fille, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Vous connaissez certainement ce texte. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Et cette personne se levait et disait: moi, je veux bien donner mon cœur, mais je voudrais savoir à qui je le donne. Qui est celui qui me dit: donne-moi ton cœur? Parce que, évidemment, nous tous, hommes ou femmes, nous avons un cœur à donner. Et nous sommes sollicités dans notre vie et dans ce monde de différentes manières. Il y a bien des voix qui s'élèvent pour nous dire: à moi, donne-moi ton cœur, à moi. C'est d'abord le monde et qui voudrait posséder notre cœur. Mais de quoi le monde remplirait-il notre cœur? De ce qui se trouve dans le monde. Or, qu'est-ce qui se trouve dans le monde? C'est pas moi qui vous le dis, c'est l'Écriture sainte. Dans le monde, il y a la convoitise de la chair. La convoitise des yeux est l'orgueil de la vie. De sorte que si vous donnez votre cœur au monde, eh bien, votre cœur sera rempli de la convoitise de la chair. Et nous savons quelle est la libération de ces convoitises de la chair. C'est quelque chose de terrible, cette énumération que vous trouvez dans l'épître aux Galates, et je lirai, si vous le voulez bien, ce texte pour que vous soyez conscient que ce n'est pas moi qui vous donne un enseignement, mais que je vous apporte ce que la Bible enseigne très simplement. Dans le chapitre 5 de l'épître de Paul aux Galates, il nous dit ceci, verset 19: les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les fêtes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Et vous savez bien qui domine le monde, c'est ce prince qu'a dénoncé Jésus en l'appelant Satan, le prince de ce monde. Et lui disait au sujet de Satan: le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi, il ne trouve rien dans moi. Il n'y avait rien dans le cœur de Jésus qui puisse correspondre à ces convoitises par lesquelles le diable établit sa puissance sur nos âmes, et même sur les âmes des chrétiens s'ils ne veillent pas. Parce qu'il ne faut pas vous figurer que depuis votre conversion, et je pense que la plupart parmi vous ont passé par la conversion, se prétendent naître de nouveau, il ne faut pas penser que parce que nous sommes convertis, notre chair a pu s'améliorer. Des années après sa conversion, l'apôtre Paul nous dit sa conviction et son expérience étaient conformes à la parole de Dieu. Je sais qu'en ma chair de convertir, il n'habite point de bien. Ça, c'est clair. Je sais qu'en ma chair, il n'habite point de bien. Et voyez-vous, plus nous avançons dans la vie spirituelle, plus nous jugeons notre chair, plus nous la condamnons, alors que le monde, au contraire, veut glorifier la chair, veut toujours exalter la chair, veut toujours la mettre en avant. Et voyez-vous, l'apôtre Paul allait même très loin. Non seulement il nous dit ces choses qui sont répréhensibles et qui viennent de la chair et que vous pouvez retrouver dans l'épître aux Galates, mais des choses qui peuvent être tout à fait naturelles et qui en soi ne sont pas condamnables, eh bien l'apôtre Paul dit que même ces choses-là, il ne les estime plus. Les avantages qu'il avait dans la chair. Regardez au chapitre 3, parce que suivant le lieu où nous sommes nés, les possibilités que nous avons eues, nous avons évidemment des avantages peut-être selon la chair. Je lis au chapitre 3 des Philippiens, au verset 2, il dit ceci, prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, à ceux donc qui n'ont qu'une religion extérieure. Car les circoncis, ce sont les Juifs, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Même si nous ne sommes pas circoncis dans la chair, nous devenons vraiment circoncis du cœur quand nous suivons réellement le Seigneur et que nous rendons notre culte par l'Esprit de Dieu. Nous qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Voilà encore une autre chose. Ne plus mettre sa confiance dans la chair. Et c'est pourquoi certains de mes amis, même qui sont ici, savent que j'ai en horreur quand j'arrive dans une salle que quelqu'un me dise « Alors, monsieur Racine, vous êtes en forme ce soir ?» Comme si je pouvais mettre ma confiance dans la chair, pour que je sois en forme. Quand le Seigneur m'a sauvé, ce n'est pas quand, humainement parlant, il était en forme. Car il aurait pu, évidemment, on aurait pu dire qu'il était vraiment en forme quand il avait 5000 personnes autour de lui, et qu'il leur faisait le sermon sur la montagne, c'était magnifique, le sermon sur la montagne, vous le connaissez, c'est une doctrine, et puis ensuite, quand il nourrissait les foules, alors on peut dire que le Seigneur était vraiment en forme. Mais nourrir les foules de pain seulement, ce n'était pas les sauver. Et à quel moment est-ce que le Seigneur nous a vraiment sauvés, a accompli notre salut? C'est quand il était sans forme sur la croix. Il n'a ni forme ni éclat. Il était cloué sur la croix, sans forme, entre deux brigands, entre deux malfaiteurs. C'est par sa mort, c'est dans ce moment où il a dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» qu'il a sauvé l'humanité. Ce n'est pas quand vous vous sentez en forme que Dieu peut vraiment vous utiliser, mais c'est quand vous sentez votre propre misère et que vous regardez éperdument à Dieu pour que lui soit glorifié. Nous ne mettons pas notre confiance dans la chair. Verset 4. Moi aussi, cependant, dit Paul, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Voilà ce qu'était Saul de Tarse, homme religieux, avant sa conversion. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, et qui auraient pu certainement conduire l'apôtre Paul, enfin Saul de Tarse, à occuper une place d'honneur, et peut-être même de devenir souverain sacrificateur à Jérusalem. Il avait toute une préparation théologique, un zèle, il était connu, il était ardent, il n'avait pas un esprit de timidité, de crainte, il croyait honorer son Dieu en persécutant les disciples du Christ. Il était absolument sincère, mais il était, avec toute sa religion, dans l'air. Et il y en a ici qui pensent que sincérité est synonyme de vérité. Attention, hein, n'est-ce pas? On peut être sincère. Et il faut reconnaître qu'il y a des gens sincères qui ne vous comprennent pas et qui sont peut-être dans l'erreur. Il faut avoir compassion pour eux. Comme Dieu a une compassion pour ce seul de ça. Il dit, j'ai été un blasphémateur, j'ai été un persécuteur, j'ai été même un outrageux, mais Dieu m'a fait miséricorde. Parce que il était vraiment dans l'erreur. Et Dieu ne demande qu'une chose, éclairer ceux qui sont dans l'erreur. Eh bien, laissons-nous éclairer. Mais vous voyez, une fois qu'il a été éclairé, eh bien, tous les avantages qu'il avait selon la chair, qui ont pu le placer en avant, il dit, j'ai estimé ces choses qui pour moi étaient un gain, je les ai regardées comme une perte, à cause de qui? À cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je ne voudrais pas être simplement un lecteur de la parole, mais vous l'entendez, cette parole que je vous dis. Est-ce qu'elle a un écho dans votre tête? Comme Paul dit que pour le Seigneur, pour le connaître lui, il a renoncé à tout. Est-ce qu'il y a parmi vous certaines personnes qui ne peuvent pas renoncer à certaines choses? Eh bien, je demande au Seigneur que, par la puissance du Saint-Esprit, il vous amène vraiment dans ces journées à pouvoir renoncer à cette chose à laquelle vous tenez et qui vous empêche de recevoir une plus grande bénédiction. Paul avait eu la vision que ces avantages charnels, ben, ça ressemblait à des ordures. Et il voulait s'en débarrasser. Ce n'était pas seulement les péchés grossiers dont nous avons lu quelque chose dans les Galates, mais c'était même ces avantages charnels. Il n'avait plus rien, de telle sorte qu'il ne se glorifiait que dans le Seigneur Jésus. Vous savez que vous avez souvent chanté des cantiques hein, qui veulent dire exactement cela. Quand vous chantez « Ma richesse et ma gloire », vous le savez, ce cantique, hein, « Ma richesse et ma gloire et ma félicité, ô Jésus, c'est de croire que tu m'as acheté, hein, ma richesse et ma gloire et ma félicité. Si je crois que tu m'as racheté, eh bien, je pense que je m'adresse à des personnes qui se savent rachetées par le Seigneur Jésus, rachetées non pas avec de l'or et de l'argent ou des pierres précieuses, mais vous avez été racheté par le sang précieux du Christ. Une vie a été donnée pour vous racheter, pour que votre cœur appartienne au Seigneur. À qui appartient votre cœur? Ce soir, du 2 octobre 1987. Quel est l'objet de l'affection la plus profonde de votre cœur en ce début du mois d'octobre? Permettez-moi de vous poser affectueusement cette question. Ce n'est pas à moi que vous allez répondre, mais quand vous serez dans le cœur, ayez un tête-à-tête avec Dieu. Votre cœur est-il attaché au Seigneur? Vous dites que vous l'aimez, je veux bien le croire, quand vous chantez, et que l'on entend chanter telle parole, on pense que vous l'aimez. Samson, dont vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas, qui était devenu l'amant d'une prostituée, qui vivait donc à côté, comme on dit aujourd'hui, hein. Il n'avait pas épousé cette femme-là. Cette jeune femme de la vallée de Sorek, qui allait finalement le trahir. Pourquoi? Parce qu'il aimait l'argent. Et quand les Philistins, ses compatriotes, ont vu que Samson, au lieu d'épouser Dalila, vivait chez elle, ils ont pensé que Samson n'était pas très régulier. Et alors, ils ont profité de cette occasion pour se servir de Dalila. Les chefs, les Philistins sont venus, vous connaissez cette histoire, et ont fait un pacte avec cette femme en lui disant, si tu nous délivres de Samson, si tu réussis à connaître le secret de sa force, bien voilà ce que nous te donnerons. Chaque chef philistin lui donnait une grosse somme d'argent. Alors elle s'y est prise, comme une femme peut s'y prendre avec un homme aveuglé par ce soi-disant amour, par une passion qui n'est pas l'amour du Seigneur. Et Samson pourtant avait été rempli du Saint-Esprit. Et sa force venait de ces consécrations qu'il avait eues déjà dans le sein maternel. Et vous connaissez l'histoire. Trois fois, elle lui pose des questions, elle le cajole pour lui faire dire son secret, et trois fois, il réussit à échapper. Car il n'a pas dit la vérité à cette Dalila. Et quand elle lui dit les Philistins sont sur toi, eh bien, il se réveille et sa force est là et il est délivré. Alors, finalement, qu'est-ce qu'elle lui dit? Une phrase qui m'a beaucoup arrêté. Comment dis-tu je t'aime alors que ton cœur n'est pas avec toi? Oui, on peut recevoir une leçon même d'une prostituée. Comment dis-tu « je t'aime » alors que ton cœur n'est pas dans l'esprit? Et alors, lassé, fatigué, à mourir, il lui révèle le fond de son cœur. Et puis, elle l'endort, et lui pense que, comme toujours, il va être délivré. Et il est dit, il ne savait pas que l'esprit s'était retiré de lui. Et quand Delila a appelé les Philistins, sachant bien que c'est toi qui lui avait dit la vérité, la force de son sang l'a abandonné. Et les Philistins lui travaillent les yeux et le font prisonnier et l'humilient en le jetant dans une prison où il tournera la meule comme le font les bœufs ou les ânes. Voilà à quoi en arrive Samson. Quel étant lui qui avait connu la puissance de Dieu. Lui qui pouvait déchirer un loup, déchirer un lion, il n'a pas résisté au convoitise de la chair, concupiscence. Il ne s'est jamais jugé de ses tendances. Il en fut de même, non seulement pour l'homme le plus fort, mais je dirais pour l'homme le plus pieux que vous trouvez dans la Bible, et qui était certainement le roi David. Et bien voilà, il avait aussi une tendance de ce côté-là, et il ne s'en est pas jugé, et il est tombé avec une femme qui paraissait pourtant spirituelle, la femme d'Uriel, Éthiopie, des grands capitaines, Bathsheba. Et regardez encore, l'homme le plus sage, celui qui a 20 ans avait des révélations de Dieu et qui a écrit le livre des Proverbes, l'Ecclésiaste, dont il est cantique. Salomon, l'homme le plus sage, qui a dit que si on gardait les commandements de la parole, on allait prolonger ses jours. Vous savez à quel âge il est mort, hein? 60 ans. Il n'avait que 60 ans, ce Salomon, qui avait écrit que tant on suivait la parole, on prolongeait ses jours. Mais voilà, il ne s'est pas jugé d'une tendance qu'il avait, et il est tombé aussi à cause de sa passion pour les femmes. Voilà. Mon fils, donne-moi ton cœur. Mais justement, ce soir, je voudrais vous répondre d'abord à cette première question. À qui allons-nous donner notre cœur? Il faut connaître vraiment à qui nous allons le donner. C'est Dieu qui nous a. Alors nous voudrions savoir vraiment qui est Dieu. Et vous savez que beaucoup de personnes voudraient bien apprendre à connaître Dieu, qu'est-ce qu'on sait sur Dieu. Alors nous ne allons pas essayer de vous répondre par la philosophie ou par une connaissance simplement que nous aurions acquise dans les écoles, mais nous avons la Bible qui prétend nous faire connaître Dieu. Alors, on prend la Bible, on veut savoir qui est Dieu et qui est celui qui nous demande de lui donner notre cœur. Est-ce qu'il est valable plus que le monde qui nous a fait ses propositions et qui aurait rempli notre cœur, qui remplit notre cœur de ce qu'il possède, les convoitises de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Eh bien, nous ouvrons notre Bible à la première page. Et qu'est-ce que nous voyons? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais ça ne nous dit pas du tout qui est Dieu. Il n'y a pas d'explication au sujet de Dieu. Il nous est simplement présenté. Là, Dieu a créé les cieux et la terre. Donc, ce que nous apprenons, c'est que Dieu est le Créateur. Il est notre Créateur. Et nous apprenons aussi, au verset 3, que c'est lui, non seulement qui a créé les cieux et la terre, mais toutes les choses qui s'y trouvent. Et ce Dieu, il parle. Notre Dieu, le Dieu qui nous demande notre cœur, il a parlé dès le commencement. C'est par sa parole que toutes choses ont été amenées à l'existence. C'est ce que nous confirme un texte de l'Épître aux Hébreux. Mais encore, faut-il croire cela? Et c'est cela, avoir la foi. C'est pas croire que Dieu existe. Dieu n'a pas commencé par nous donner des preuves de son existence. Dès la première page de la Bible, il se présente, mais sans nous donner de détails sur ce qu'il est. Au commencement, Dieu. Parce que dans toute l'Écriture, il nous est montré que ceux qui nient l'existence de Dieu sont considérés comme des insensés, comme des fous, comme des inintelligents, comme des gens pas raisonnables. Il est parfaitement raisonnable de croire qu'il y a un Dieu qui a créé l'univers et toutes les choses qui s'y trouvent. Comme nous le lisons dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11e, il est dit ceci au verset 3e, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est bien ce que nous lisons dans le premier chapitre de la Genèse. Aucune explication sur lui. Qui est-il ce Dieu? Et d'où vient-il? Voilà une question que nous nous posons, puisque c'est Dieu qui demande notre cœur. Nous avons le droit d'apprendre à le connaître. Bon, alors nous lisons le premier chapitre de la Genèse et nous apprenons qu'il est donc le Créateur. Et quand nous arrivons au moment où il crée l'homme à son image, verset 27 ou verset 26, on est surpris d'entendre Dieu qui dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Et Dieu créa l'homme à son image. Mais tout de suite, là, nous avons vu que le pluriel est employé. Faisons l'homme à notre image. Comme si Dieu, le Dieu qui a créé, n'était pas seul. Et ce que nous allons apprendre au travers de toute la Bible, c'est que le Dieu auquel nous croyons est un Dieu trinitaire. Il est Père, il est Fils et il est Saint. Nous avons déjà vu ça dans le verset 2 de ce premier chapitre. L'Esprit de Dieu planait sur la surface des eaux. Et nous apprenons aussi, quand nous ouvrons alors notre Bible dans le Nouveau Testament, au chapitre 1er de l'Évangile de Jean, nous avons une réponse que nous n'avons pas encore trouvée dans la Genèse, mais au sujet de ce Dieu que nous voulons connaître et qui nous demande notre cœur. Il est dit au chapitre 1er de Jean, au commencement, comme on a lu au commencement dans la Genèse, hein, on trouve un autre commencement ici. Au commencement était la parole. Donc la parole, elle était avant le commencement de la Genèse. Au commencement était la parole. Donc la parole existait avant la création. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et sans elle, rien de ce qui a été fait n'a été accompli sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière vit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Et un peu plus loin, au verset 14, nous apprenons ceci. Et la parole, donc, qui était auprès de Dieu, qui était avec Dieu, et qui était Dieu, est devenue chair. Et la parole devint chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire d'un Fils unique venu du Père. Et vous connaissez toute la doctrine de ce chapitre premier de l'Évangile de Jean. Donc, ce Dieu qui a tout créé au commencement, il est éternel. Et c'est bien ce que vous lisez au chapitre 2 de la Genèse, où Dieu est appelé l'éternel Dieu. L'éternel Dieu. Dans le chapitre 2 de la Genèse, et dans le chapitre 3, 20 fois, nous retrouvons cette expression, l'éternel Dieu. L'éternel Dieu. Donc Dieu est éternel. Alors voilà un renseignement. Il n'a ni commencement, ni fin. Et si nous voulions continuer à apprendre à connaître, en disant, ben voilà, on a lu tout le livre de la Genèse, qui nous parle de ce Dieu créateur, mais on le voit aussi se révéler à des hommes, comme à un homme tel Abraham. Abraham a eu la révélation de Dieu quand il était au milieu des païens en Mésopotamie, dans ces pirates dont on parle tant de nos jours. Hein. Eh bien, c'est là que vivait Abraham, et il était païen comme les autres. Et un jour, eh bien, le Dieu de gloire, nous dit Étienne, est apparu à Abraham. Et Abraham a su que le vrai Dieu n'était pas une idole, n'était pas une statue comme on en adorait autour de lui. Il a su que le vrai Dieu avait une bouche qui parle, des yeux qui voient, des mains qui touchent, des pieds qui marchent, et un cœur qui aide, mais aussi les oreilles qui entendent. Vous avez une description de ce que Dieu est comparé aux idoles dans le psaume 115. Non point à nous, non point à nous, mais à ton nom donne gloire, disons-nous. Et puis il est parlé des idoles. Elles ont un nez, elles ne respirent pas. Elles ont des yeux, elles ne voient pas. Elles ont des oreilles, elles n'entendent pas. Elles ont des mains, elles ne touchent pas. Elles ont des pieds, elles ne marchent pas. Dans les processions, qu'est-ce que l'on fait? On porte une statue sur les épaules. Et l'on nous dit que c'est là la divinité. Quelle folie! Et dire que juste dans le christianisme, ces choses ont repartent ou reparaissent de plus en plus. Alors, or, même de l'an 2000, c'est quelque chose d'effrayant. Mais nous voulons connaître de plus en plus ce Dieu. Si vous lisez l'Écriture, et c'est cela que je voudrais, s'il vous reste, j'ai vu à eux, les gens qui ont fait des progrès, ce ne sont pas ceux qui lisent seulement leur petite portion quotidienne. Vous connaissez cela, j'ai rien contre cela. Lisez votre portion quotidienne, votre portion dévotionnelle, comme on le dit. Hein. Mais ne pensez pas que vous allez connaître Dieu et connaître la Bible en vous contentant de cela depuis votre conversion. Vous devez vous mettre à l'étude de la parole depuis la première page jusqu'à la dernière. Vous devez chercher à connaître l'ensemble de la pensée de Dieu dans toutes les Écritures. Attache-toi, dit l'apôtre Paul à Timothée, attache-toi à l'habitude. Attache-toi en dehors de votre lecture dévotionnelle. Essayez de vous discipliner en disant, mais moi, je veux une fois pour toutes quand même lire depuis la première page à la dernière. Mais vous me direz, oui, mais il y a des choses que je ne comprends pas. Ça n'a aucune importance. Passez par-dessus. Ne vous arrêtez pas. Et puis, tout à coup, vous verrez un peu plus loin, vous êtes dans deux, trois chapitres plus loin, un verset qui vous rappellera ce que vous avez lu et qui sera la lumière sur ce que vous n'avez pas compris. Il n'est pas nécessaire d'avoir des instructeurs patentés pour faire des progrès dans la connaissance de la parole de Dieu et de la personne que ce livre nous révèle à chaque fois. Parce que c'est ça le secret d'une lecture vraiment bénie de la parole de Dieu, c'est d'y trouver quelqu'un à toutes les pages. Et ce quelqu'un, c'est le Seigneur. Le Seigneur Jésus remplit aussi bien l'Ancien Testament que le Nouveau Testament. Chaque fois qu'un homme dans l'Ancien Testament a eu une apparition de Dieu, c'était le Fils avant son incarnation. C'était le Fils avant son incarnation. Alors, ça commence à vous passionner, vous voulez connaître celui qui s'était cher, qui était la parole, qui a tout créé, qui était avec Dieu, qui était auprès de Dieu, et qui un jour est devenu cher. Mais avant de devenir cher, avant de prendre la forme humaine, Dieu s'est manifesté à plusieurs reprises et s'est manifesté à Adam d'abord, mais évidemment, Adam a chuté, Adam a rompu la relation qu'il avait avec Dieu, et alors il a été mis hors d'Éden. Mais Dieu n'a pas abandonné l'homme. Une fois hors d'Éden, il a continué de parler, même au fils d'Adam et d'Ève, qui s'appelait Caïn. Dieu a parlé aussi à Caïn. Et quand Caïn a offert un sacrifice qui n'a pas plu à Dieu, alors que ce sacrifice avait coûté plus cher que celui d'Abel, mais Abel, lui, il avait mis sa confiance dans ses victimes qu'il apportait au Seigneur. Tandis que Caïn, il mettait sa confiance dans quoi pour son salut, pour plaire à Dieu? Dans ses œuvres, dans son travail, voilà. Et il a porté le fruit de son travail. Et ça n'a pas plu à Dieu. Et alors, quand Caïn a ressenti que son offrande n'était pas l'agrée de Dieu, il était triste et abattu. Et Dieu lui dit, mais pourquoi ton visage est-il abattu? Pourquoi es-tu triste? Eh bien, si tu fais bien, ne seras-tu pas agréé? Et puis, si tu as péché, eh bien, le sacrifice pour le péché est là à ta porte, il y a possibilité pour toi de salut. Mais au lieu d'écouter la voix de Dieu, qu'est-ce que Caïn a fait? Il s'est endurci et il a tué son frère. Et il est devenu un meurtrier. Mes amis, toutes ces choses, vous les connaissez, vous les enseignez dans vos écoles du dimanche, je pense, à vos enfants. Mais est-ce que vous apprenez à connaître votre Dieu, ce Dieu qui parle, qui a parlé déjà aux hommes de l'Ancien Testament? Quand vous lisez le livre de l'Exode, vous voyez un homme comme Moïse, et qui dit à Dieu, quand il a la vision du buisson ardent, Et qu'il entend Dieu qui lui dit d'aller auprès du Pharaon. Il dit, j'irai. Mais quand mes frères me demanderont qui m'envoie, qu'est-ce que je leur dirai? Quel est ton nom? Et qu'est-ce que Dieu répond? Tu leur diras, je suis, va, envoyé vers vous. Je suis celui qui suis, ou celui qui est. Dieu, c'est l'éternel présent. Il n'a ni commencement ni fin. Et c'est lui qui vous demande votre cœur. Si vous continuez votre lecture, vous verrez que dans le livre du Lévitique, on apprend à connaître que ce Dieu qui nous demande notre cœur est saint. Et souvenez-vous bien de cela, parce que tout cela sera valable pour les autres messages. Ce que Dieu est, il est éternel. Il est la parole. Il est saint. Et il nous dit, soyez saints car moi, je suis saint. Ça, c'est le Lévitique. Et puis, si vous lisez les nombres, eh bien, vous apprenez que Dieu n'est pas un homme pour nous mentir, mais un fils d'homme pour se repentir. Ce que Dieu vous promet, il accomplit toujours. Et si Dieu veut vous bénir ce soir et dans les jours à venir, eh bien, il accomplira ce qu'il a promis. Voulez-vous de sa bénédiction? Vous la voulez? Eh bien, vous pouvez sûr que vous allez la recevoir. Ouvrez votre cœur. Laissez le Saint-Esprit vous convaincre. Et vous verrez encore des choses magnifiques s'opérer dans votre vie. Mais justement, alors, à mesure qu'on lit la parole, on arrive par exemple au Deutéronome, où nous lisons cette parole. Verset 4, « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, chapitre 6 de Deutéronome, écoute, Israël, Israël, c'est le peuple dont descendant des patriarches d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les hommes auxquels Dieu est apparu, avec lesquels il a traité une alliance. Et maintenant, le peuple d'Israël est là au désert, et Moïse l'enseigne. Écoute Israël, l'éternel notre Dieu est le seul éternel. Et s'il y a un autre éternel? Et s'il y a d'autres dieux? Selon le monde, hein? Et on dit, on est Bouddha, Mahomet, tout cela, n'est-ce pas? C'est tout le même Dieu, Allah. Non, c'est le même. Il y a un seul. Et c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Qui est le Dieu de Jésus. Jésus-Christ s'est réclamé du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et vous pourriez continuer à lire l'Ancien Testament et vous apprendrez à connaître qui est ce Dieu unique qui vous demande votre cœur, mais qui vous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Si vraiment vous avez affaire avec Dieu, qu'est-ce qui doit vous caractériser? Qu'est-ce qu'on doit savoir de vous? La première chose qu'on devrait savoir de vous, c'est que vous aimez votre Dieu. Et ça ne suffit pas de dire « j'aime Dieu hein, » pour que ce soit vrai. Mais que le monde autour de vous le voit. Et celui qui aime Dieu, comment est-ce qu'il le montre?
Il le reflète.
Il le reflète, oui. Il le refait, et puis il garde ses commandements. Celui qui garde mes commandements, disait Jésus, c'est celui-là qui m'aime. Parce que beaucoup de gens veulent dire, mais nous aimons Dieu. Le bon Dieu, on l'aime bien, hein, il ne nous a pas fait de mal. On dit cela quand ça va bien. Hein. Et puis, et quand on a une épreuve, enfin, pourquoi est-ce que Dieu permet ça? On est tout prêt d'accuser Dieu. Alors qu'il nous aime d'un amour infini, comme nous sommes injustes, que Dieu nous parle ce soir et que nous puissions apprendre vraiment à le connaître. Nous avons vu que Dieu a voulu se révéler, a voulu venir habiter au milieu de nous, non pas seulement par des apparitions à certains moments de l'existence des hommes, à certains hommes, mais il a voulu que le monde entier puisse le connaître. Alors, il a revêtu un corps de chair. Cette parole qui était Dieu, qui était auprès de Dieu, elle est devenue chair. Bien souvent, vous lisez le chapitre 2 de l'Épître aux Philippiens. Il était de condition divine. Et il n'a pas regardé comme une proie à arracher les semblables à Dieu. Il était semblable à Dieu. Mais il s'est humilié. Il s'est anéanti lui-même. Au risque de ne pas être connu, il a pris un corps, ce corps qui était formé dans le sein de la Vierge Marie. Il a voulu naître dans ce monde, éprouver ici-bas en figure comme un homme, et il est devenu obéissant à la volonté de son Père qui voulait nous révéler. Il est devenu obéissant jusqu'à la mort, et à la mort de la croix du Christ. Mais Jésus n'est pas resté dans la mort, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous, et il nous dit qu'il reviendra bientôt. Mais en attendant, bien, il nous demande notre cœur. Mais je voudrais encore souligner ce que ce Dieu a fait, et qui est vraiment bouleversant. Au chapitre 3 de l'Épître à Timothée, il est dit ceci, verset 15e. Dieu, verset 16, sans contredit le mystère de la piété, c'est-à-dire de notre relation avec Dieu, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Quand il vous dit, mon fils, donne-moi ton cœur, c'est pas un inconnu qui vous parle. C'est quelqu'un que vous pouvez connaître. Et vous pouvez savoir si ça vaut la peine de lui donner votre cœur. Ce n'est pas n'importe qui. Ce Dieu n'est pas un inconnu, comme les Grecs le pensaient. Vous avez élevé un autel au Dieu inconnu. Et Paul leur dit, mais c'est ce Dieu-là que vous ne connaissez pas, que moi je vous annonce. Il n'est pas loin de chacun de nous. Mais ça ne suffit pas de savoir que Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Où faut-il qu'il soit? En nous. C'est ça que nous devons comprendre. Il n'est pas loin de chacun de nous. Le miracle peut se faire. Mais il ne veut pas rester extérieur à vous, il veut habiter en vous. Et la seule demeure qu'il désire, c'est votre cœur. Le cœur qui est le siège de nos affections, mais qui est aussi cette pompe qui envoie le sang jusqu'aux extrémités de tous nos membres. De sorte que si on prend cette image du cœur, eh bien, nous voyons que si Dieu habite dans notre cœur, c'est notre être tout entier qui est influencé par cette vie de celui qui nous remplit. Nos pieds aussi reçoivent le sang que le cœur envoie. Nos mains aussi sont vivifiées par ce sang. Et tous nos membres, eh bien, si nous avons reçu le Seigneur, non pas dans notre cœur de chair, mais dans ce cœur qui est le symbole de nos affections, de notre sensibilité, au fond, de notre vie, toute notre vie. Si nous l'avons reçu là, c'est notre vie tout entière qui est imprégnée de la présence de Dieu. Dieu est en nous, par le Christ que vous avez reçu. Christ en nous, c'est l'espérance de quoi? De la gloire. Un jour, nous serons semblables au Seigneur. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Et pour être sûr que Jésus était vraiment un Dieu, non, parce que c'est ça qu'il faut savoir. Comment est-ce que tu es sûr que Jésus était Dieu? Quand il est mort sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit avant de mourir? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors on a pu penser, eh bien, vraiment, Jésus était un faux docteur. Sa puissance l'a abandonné, Dieu ne lui a pas répondu. Mais qu'est-ce qui est arrivé trois jours après? Jésus, qui avait été décloué et mis en tombe, est ressuscité. Une délivrance beaucoup plus grande que de descendre de la croix. Parce qu'il aurait été encore en vie quand il serait descendu de la croix. Mais Dieu a voulu donner une preuve plus éclatante qu'il était vraiment son fils, il l'a ressuscité dans les morts. Et c'est ça que veut dire, il a été justifié par l'Esprit. Le seul Esprit a ressuscité, a redonné la vie au corps de Jésus, il est justifié par sa résurrection, il a été vu des anges, c'est vrai, enfin, il y avait des anges qui l'ont vu, à sa résurrection, comme dirait à sa naissance, il a été prêché aux nations, c'est l'évangile qui a été annoncé, il a été cru dans le monde, il y a eu des hommes qui ont cru en lui, et il a été élevé dans la gloire. D'où nous savons qu'il reviendra, et nous l'attendons. Mais alors, toutes ces œuvres que Jésus est venu faire, eh bien, je vous lis encore un autre passage, au chapitre 5 de la deuxième Corinthiens. Il est dit ceci, verset 19e. Dieu était à côté du Christ, en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec lui. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. L'œuvre du Christ, Dieu était en Christ. De sorte que, quand vous regardez le Christ dans les évangiles, quand vous contemplez Jésus, qui est-ce que vous contemplez? Le Dieu invisible. Le Dieu d'éternité. Le commencement du Christ n'était pas à la flèche, pas plus que sa fin ne serait à la croix. Il était Dieu de toute éternité, mais il a revêtu ce corps pour pouvoir nous approcher, pour être en contact avec nous, et pour nous montrer ce qui fait une vie qui glorifie le Père. Et il était tellement la manifestation, l'incarnation de Dieu, Dieu était en Christ, qu'à la fin de sa course, dans un entretien avec ses disciples, vous prenez le 14 de Jean, vous le lisez pour vous-même, il dit qu'il va retourner vers son Père, où il nous prépare des places, et quand on lui pose la question, mais où vas-tu? Il dit, mais vous en savez le chemin, mais quel est ce chemin? Jésus dit, je suis le chemin. Je suis la vérité, je suis la vie. Vous le croyez, ça? Nul ne vient au Père que par moi. Et alors, Philippe lui dit, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Et qu'est-ce que Jésus répond? Je suis depuis si longtemps avec vous, Philippe, et tu ne m'as pas connu. Est-ce qu'il devrait dire cela à vous? je suis depuis si longtemps avec vous, vous parlez toujours de Jésus, vous aimez chanter les cantiques de Jésus, mais quand vous chantez les cantiques de Jésus, c'est de qui que vous parlez? Du Père, vous ne pouvez pas séparer Jésus du Père. C'est du Père aussi. Quand vous parlez de Jésus, celui qui m'a vu a vu le Père. Alors, est-ce que vous connaissez quelque chose maintenant de votre Père Céleste? Ou bien est-ce que votre Père Céleste est un Dieu qui est perdu au-dessus des nuages, tout en haut, dans les cieux des cieux? Qu'est-ce qu'il était déjà dit dans Ésaïe? J'habite dans les lieux très hauts, dans la lumière et la pluie, mais je suis aussi avec celui qui est humilié, contrit et qui tremble à ma parole. Le Dieu qui habite la lumière et la pluie veut bien habiter dans nos cœurs. Et c'est là que je voudrais terminer en vous suppliant, puisque vous avez un cœur à donner, donnez-lui vraiment votre cœur. Vous me direz, mais moi je lui ai donné depuis longtemps, mais est-ce que vous avez bien réalisé ce qu'il y avait dans votre cœur? Pourquoi on se pose une question, mais est-ce que vraiment je peux lui donner mon cœur? Qu'est-ce que Dieu dit de notre cœur, de ce cœur dans lequel il voudrait habiter? Jérémie chapitre 17, ça c'est perdu, et vous êtes là. Parce que si vous ne savez pas, eh bien je crains beaucoup pour vous. Verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le voir? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, verset 10. Je tombe des reins pour rendre à chacun selon le poussé. Et il faut d'abord comprendre ce qu'est notre cœur. Donc, si je garde mon cœur pour moi, ou si je donne au monde qui m'attire, eh bien, mon cœur étant déjà tortueux, qu'est-ce que le monde lui apportera? Ce ne sera pas beau. Vous rendez-vous compte que celui qui ne donne pas son cœur au Seigneur, il a ce cœur-là. Si vous ne donnez pas votre cœur au Seigneur, votre cœur, il est mon cœur. Il est méchant, il est tortueux. Et si vous n'avez pas vu l'état de votre cœur, il faut demander au Saint-Esprit, montre-moi comment tu vois mon cœur. Et vous savez, on passe un mauvais quart d'heure. Mais quand Dieu nous révèle ce qu'il voit dans notre cœur, et vous savez, Jésus le savait, quand il était sur la terre et que les gens disaient, on veut te suivre, comme aujourd'hui dans les réunions d'évangélisation, il y a beaucoup de gens qui veulent tout de suite suivre Jésus, parce qu'on fait certaines pressions, peut-être psychiques, sur les âmes, pour avoir une décision. Mais le cœur, il faut savoir ce qui s'y trouve. Qu'est-ce que Jésus dit? Chapitre 7 de Marc. Verset 20. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sort quoi? Les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres. Il y en a dans ce monde? Il y en a à Montréal? Rendez-vous compte combien de Dieu a fait d'enfants, un petit garçon de 3 ans. C'est épouvantable, cette violence. Hein? Des meurtres. Les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude. Il y en a des fraudes? Scandale du jour. Continuellement, dans le gouvernement. Le dérèglement, le retard en Dieu, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sorte du dedans et souillure. Alors, est-ce que vous voulez garder votre cœur?
Et c'est ça que vous pouvez donner au Seigneur?
Non. Il ne vous demande pas de vaincre tout cela. Il vous demande de lui donner votre cœur avec tout ce qu'il contient. Mon fils, donne-moi. Donc, vous trouvez que c'est une grande perte? Qu'est-ce que vous aurez donné? Des ordures. Mais c'est ça mon cœur. Si je garde mon cœur, je suis possédé par toutes ces choses. Je suis possédé par toutes ces choses. Alors, Seigneur, pourquoi est-ce que je ne devrais pas ce cœur? Ce cœur qui se désespère, ce cœur qui n'arrive pas à s'améliorer, que je n'arrive pas à améliorer. J'ai le désir de faire le bien, puis je suis toujours coulé. Et puis, si je donne mon cœur au monde, eh bien, il y a la compagnie qui vient encore s'y mêler. Alors, je suis vraiment perdu. Pas parce qu'un évangéliste me l'a dit, mais parce que Dieu me l'a. Et vous savez, où est le Seigneur? Dans quoi? Quand il est apparu dans ce monde, on l'a mis où? Dans une étable, hein? Dans une écurie. Alors, s'il a consenti à l'être dans une étable, il peut bien l'être aussi. Et voyez-vous, c'est cela qui est merveilleux. C'est sa présence qui nettoie. Quand vous donnez votre cœur, c'est lui qui le change. C'est lui qui enlève votre cœur de pierre et qui en fait un cœur sensible, un cœur de chair, et c'est lui qui vient l'inventer. Mais quand je dis lui, je ne dis pas seulement Jésus ou petit Jésus comme on vous l'a enseigné autrefois peut-être, mais je termine avec ce Jean 14 qui nous dit bien ce qui se fera si vous avez accepté Jésus, son invitation, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués, qui êtes travaillés, qui êtes chargés, qui n'en pouvez plus, qui vous ne s'améliore pas, venez à moi. Comme il l'a dit dans Matthieu 11, verset 28, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi. Je vous donnerai le repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez mes instructions. Je suis doux et humble de cœur. Vous aurez le repos de vos âmes. Vous trouverez le repos de vos âmes. Alors, si vous êtes venu à lui, alors vous l'aimez. Verset 15, chapitre 14 de Jean. Si vous l'aimez, alors gardez maintenant le commandement. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous. Qu'est-ce qui demeurera avec vous, avec lui? L'esprit de vérité. Mais il était où l'esprit de vérité? En Jésus. Jésus ne possédait pas l'esprit avec mesure, il possédait l'esprit sans mesure. Il était avec les siens, il était en Jésus et avec les siens. Mais il leur dit, il sera, cet esprit, non plus seulement avec vous comme moi j'étais avec vous, il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a les commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Et puis verset 22, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Alors, qui est-ce qui va habiter en nous? C'est le Dieu tout entier, comme nous disions au début. Père, Fils et Esprit. La Trinité entière veut habiter en nous. Dieu est Esprit. Et nous, nous avons aussi un Esprit. Alors, la demeure du Père est dans notre Esprit. Pour influencer toutes nos pensées. Le Seigneur vient habiter dans notre âme. Nous avons une âme. C'est notre personnalité. Et Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dieu dans notre esprit, Jésus dans notre âme, n'est-ce pas? Le Fils dans notre âme, et puis notre corps. Oui, c'est ce qu'il veut. Hein? Il est la demeure de quoi? Du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait sa demeure dans notre corps. Possède nos membres, possède nos sens. Nous ne sommes plus esclaves de nos sens pour accomplir les convoitises du monde, mais nous laissons le Saint-Esprit posséder aussi notre corps. C'est pour ça qu'il est dit que nous devons pas seulement livrer notre âme, ça c'est facile, hein, de signer un papier comme ça on donne au Seigneur, mais ça veut dire que nous nous abandonnons entièrement aussi notre corps. Livrez vos corps, Romains 12, en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. C'est cela notre culte raisonnable. Pas seulement un culte en parole, quelques mots de louange, mais vraiment ce culte en esprit et en vérité. Et alors vous me direz, mais si nous faisons cela, est-ce que nous n'aurons pas une vie un peu monotone? Mais non, chers amis, c'est cela que je voudrais que le Seigneur vous révèle dès ce soir. Dieu est bienheureux. Il est appelé dans Timothée le Dieu bienheureux. Si le Dieu bienheureux habite en vous, qu'est-ce que vous ferez? Et le bonheur de Dieu, il le trouvait en qui? C'est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon plaisir. Il est dit que Dieu était en Christ. Et il continue d'être en Christ. Moi et le Père, nous sommes un. Le Père est en moi et je suis dans le Père. Le Saint-Esprit était en lui. Alors, toute la plénitude de la divinité, il est dit qu'elle ne sait plus à habiter dans le Seigneur. Alors, si vous avez vraiment le Seigneur, prenez conscience qu'en lui, vous avez le Père et le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas avoir le Seigneur sans avoir aussi son Esprit. Mais, puisque vous devenez conscient que c'est Père, Fils et Saint-Esprit, le Dieu tout entier, qui prend possession de votre être tout entier, il faut le lui laisser, laissez-le agir. Et quand le Saint-Esprit est en nous, eh bien, il nous révèle, il condamne automatiquement. J'ai encore des mauvaises pensées. Mais est-ce que je vais suivre ces pensées-là? Je dis au Dieu, comme je suis heureux, que tu sois, tu m'es donné un sauveur. Voilà ce que ma chère. Alors, je juge mes pensées. Je les condamne. J'ai des tendances naturelles. Et tout à coup, elles me sont manifestées dans la vie quotidienne. J'ai une pensée de jalousie. Alors, la cultive. C'est une belle chose. La jalousie. Ça rend impossible nos relations. Mais j'ai des pensées, et bien je dis, Seigneur, je m'en juge. C'est vrai, j'avais besoin d'un sauveur. Je ne suis pas, comme je dis souvent, un pécheur en peinture. Mais je n'ai pas non plus un sauveur en peinture. J'ai un vrai sauveur. Et chaque fois que vous vous condamnez, que vous vous jugez vous-même, sur un point, il vous donne la délivrance. Et Dieu ne se souvient plus de nos péchés, de nos iniquités. Il vous voit dans les perfections de son Fils. Mais la vie chrétienne, c'est pas simplement le salut par grâce, par moyen de la foi, c'est une vie de foi continuelle. Et c'est ce que vous devez bien comprendre. Nous ne sommes sauvés sans espérance. Le salut n'est pas derrière nous, comme beaucoup le croient. C'est devant nous. Et c'est par la foi que nous marchons vers la possession de ce si grand. Alors ne le négligeons pas, mais chaque jour qui passe, vivons. Et quand le Seigneur viendra, alors il transformera le corps de notre humiliation en la conformité de Dieu. Mais mes amis, comprenez-le bien, votre corps, vous-même, vous devenez le temple du Saint. Vous devenez le temple de Dieu. Là où il y a un chrétien, Dieu se trouve. Dieu habite dans notre vie. Nous marchons avec Dieu. Et notre marcha avec Dieu. Puis, il ne fut plus parce que le Dieu dans notre vie. Dieu dans notre cœur. Où l'on prie. Ce que tu veux nous apprendre ce soir, ô notre Dieu, c'est que tu es le Dieu bien. Et si nous pouvons croire que tu habites dans nos cœurs, nous devons connaître le bonheur. Le vrai bonheur, au sein même de toutes les souffrances. Nous possédons la joie du Seigneur. Non plus la joie que peuvent nous apporter les circonstances. Nous avons une joie qui ne dépend plus des circonstances. Nous avons une paix qui ne dépend pas de l'atmosphère dans laquelle nous nous trouvons. Nous avons le Dieu de paix. Nous avons la paix de Dieu en nous. Nous avons la joie divine. Nous avons la vérité en nous. Cette vérité et qui n'est pas mensongère. Tu es la vérité, tu es le Dieu de vérité, tu es le Dieu d'amour, le Dieu de justice, et tu es le Dieu aussi de puissance. Cette puissance que nous n'avons pas dans la chair, tu nous la donnes. Non pas pour faire des choses extraordinaires, mais pour vivre vraiment en chrétien. Pour pouvoir tout traverser sans découragement, pour pouvoir faire face à toutes les circonstances de vie. Nous te bénissons, parce que nous pouvons descendre dans les profondeurs de Dieu. Tu n'es pas un Dieu retiré au fond du ciel, tu es tout au fond de notre être maintenant que nous avons. Et nous voulons te demander que ce soir, nous puissions rentrer en nous-mêmes, car nous avons été si souvent hors de nous-mêmes. Comme un fils prodigue, nous étions dans une terre éloignée, et pour retrouver le Père, il l'a retrouvé quand il est rentré en nous-mêmes. Donne-nous de rentrer en nous pour y découvrir ce Père qui nous a au plus profond de nous-mêmes pour prendre la direction de toute notre vie, de notre esprit, de notre âme, de notre corps, pour que déjà ici-bas, nous soyons des temples, là, dans les rues où nous habitons, là, dans le travail que nous pratiquons, que le monde s'aperçoit de la présence de Dieu en nous. Parce que c'est toi qui es notre vie. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous ce soir. Que tu nous accompagnes, mon Dieu. Que nous ayons vraiment ce tête à tête avec toi. Et que nous puissions croire que ce que nous avons entendu est vrai, est réalisable, est la vie chrétienne authentique et normale. Donne-nous de rentrer en nous-mêmes, de savoir nous juger et de ne plus regarder à nous-mêmes, mais de regarder à ce qui est la perfection. Et nous savons qu'en le contemplant, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Non pas par nos efforts, mais en laissant Dieu agir en nous. Que nous puissions nous séparer ce soir en gardant cette parole à celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons espérer et penser. À lui soit la gloire au ciel des siècles. Amen.
Il me semble que quand on lit aussi les grands décidèles entre le milieu du 3e siècle, maintenant, on arrive à une idée qui est faite encore, qui est acceptée, et que c'est un bon mot en français, d'accepter, c'est ça, de, que le corps est condamné et contre l'esprit, et que tout ce qui nous dit, c'est contre l'esprit, c'est la part du corps, justement. Alors, on voit la division maintenant. Et tu as fini cette idée-là, et j'ai toujours pensé, j'ai toujours cru que c'était peut-être une idée que j'ai beaucoup à apprendre de ces enseignements-là, de ces écrivains classiques qui ont toujours condamné le corps et élevé l'esprit. Mais j'ai des questions dans mon esprit vis-à-vis du fait que nous sommes créés dans l'image de Dieu, que mon corps est défini et est conçu, la conception de comment le corps fonctionne, et tout ça est tellement merveilleux. Il semble que tout ce que j'ai qui dit comment le corps fonctionne, c'est juste que je loue Dieu. Ça ne veut pas dire que dans mes cellules, dans ma chair et le sang qui coule, j'ai des questions. Qu'est-ce qui est méchant dans mon corps?
Mais c'est pas dans ton corps, c'est dans l'homme tout entier. Esprit, âme et corps.
Oui, je pense que c'est une question et c'est la parole aussi.
Mais j'ai pas dit que le corps était mauvais. J'ai pas dit du tout que le corps était mauvais. Quand je parle du cœur, je parle d'une façon symbolique. C'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui nous montre ce qu'il y a dans le cœur. Mais notre corps, il doit justement être livré à Dieu. Le corps n'est pas mauvais, j'ai dit, c'est une étrange et admirable manière, tu as tout à fait raison, dans le psaume 39, et à l'occasion de ma 8e décennie dans laquelle je suis entré, je relisais ces passages qui nous montre que Dieu a vu leur substance informe quand nous étions déjà dans le sein maternel, n'est-ce pas? Et il nous a formé d'une étrange et admirable manière. Et il dit ici, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Mais c'est ça, justement. Créée à l'image de Dieu, esprit, âme et corps. Tes œuvres sont admirables, mon âme le sait très bien, mon corps n'était point caché devant toi. Mais qu'est-ce qu'on fait du corps dans ce monde? On emploie son corps. Pourquoi? C'est justement dans le monde sans Dieu que, n'est-ce pas, quand on vous dit, votre âme et votre esprit n'est pas touché par le péché, n'est-ce pas? C'est seulement notre viande. Hein? Comme si le corps c'était de la viande. C'est seulement notre chair. Alors bon, si j'ai tel partenaire, mais on disait à ma fille en Israël, ma dernière petite, des hommes qui lui proposaient, enfin vous savez quoi. Puis elle résistait. Puis lui disait, mais ça ne te touchera pas, moi aussi je suis chrétien. C'est seulement ta viande que je te demande. Bon alors, vous comprenez ce qu'on fait du quoi? Un c'est du poulet, un autre jour c'est du bœuf, un autre jour c'est du cochon. Qu'est-ce que vous voulez? Mais ça c'est du bon. Alors voilà ce que le monde fait du corps. Mais le corps est une chose sainte, c'est sacré notre corps. Et il appartient à Dieu comme notre esprit.
Mais qu'est-ce que ça veut dire d'avoir dans ta chair, aucun bien?
Oui, mais dans ma chair, c'est pas la chair. La chair viande.
Okay,
c'est comme vous, c'est pas la chair viande, parce que le mot chair, alors là, il faudrait expliquer les différentes définitions du mot chair.
Je suis contente que tu clarifies ce point-là.
Oui.
Alors, je n'ai pas dans mes os et mon sang.
Mais bien sûr que non.
C'est pas mon corps en soi qui est condamné.
Pas du tout.
Et vous d'accord que ce qui dit a été propagé jusqu'au point qu'on a vu que même on a prêché d'être les limites
du Christ.
Et que le fait que c'est mauvais et que il faut se priver du mariage, c'est un état plus honoré de venir. Il y a quand même eu de la confusion.
Mais bien entendu. Et moi, je ne veux pas revenir à ces choses-là, mais je veux revenir à ce que nous dit la Bible, qui montre justement la beauté du corps et que notre corps est pour le Seigneur.
Merci.
On aura l'occasion de revenir là-dessus, demain. Parce que Dieu n'est pas seulement dans notre corps, mais il est aussi dans la famille. Et peut-être qu'en parlant de Dieu dans la famille, on aura l'occasion de revenir plus clairement là-dessus.
Une dernière question, si vous permettez.
Oui.
Oui, Diane. Ah, excuse-moi, je vais pas parler.
Vous avez dit un jour que Dieu était dans notre esprit, mais il marchait nos pensées, que le Christ était dans notre âme, tant que tout ça fait référence à nos sentiments.
Oui.
Puis l'esprit était dans notre corps, qui voulait posséder nos âmes.
Non, oui.
Bon. Donc, pour moi, j'avais jamais vu ça dans cet aspect-là, pour le coup, que c'était un esprit. Est-ce que les versets, c'est ce qui fait comme si j'avais ça comme chose,
mais
pas le tout à travers les écritures, bon, ouais.
Mais nous sommes un, n'est-ce pas? Quoi que nous soyons, comme Dieu est un, il n'y a pas trois dieux. Quand on parle de la Trinité, on ne parle pas de trois dieux. C'est un Dieu unique, mais qui se manifeste en trois personnes. Alors, nous avons été créés à son image, et l'apôtre Paul, dans chapitre 5 de la première aux Thessaloniciens, tu trouves là cette division que j'ai faite, et qui n'est pas de moi, mais qui vient de l'apôtre Paul, et qui nous montre aussi dans d'autres passages que l'esprit et l'âme ne doivent pas être confondus, comme on l'a fait si souvent, avec l'Église. Que l'homme tout entier, c'est l'homme tout entier, hein, votre esprit, votre âme et votre corps soient sanctifiés, n'est-ce pas? Et il est dit que c'est Dieu qui le fait, n'est-ce pas? C'est pas notre effort. Mais si nous laissons la plénitude de Dieu nous remplir, eh bien, nous pouvons faire cette expérience des livres. Relisez 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Et puis vous pouvez lire aussi Hébreux 4, verset 12, qui nous montre la distinction entre l'âme et l'esprit. C'est la parole de Dieu qui est communiquée à deux tranchants, qui pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures, et des moines. Mais la parole de Dieu va jusque dans nous autres pour nous fortifier. Physiquement, on en fait l'expérience. Et puis, tout en temps, ça m'a beaucoup aidé, ça. Quand on arrive à 70 ans, on se dit, ben voilà, j'ai atteint la limite. Hein? Le nombre de nos années monte jusqu'à 70 ans. Tout d'un coup, on est. Alors, je vais mourir à 18 ans. Je suis au courant, malgré les médecins. Alors, mais peut-être quand même, on dit, ben, c'est inéluctable. Hein? Et puis, à cause de la grande vigueur, ils vont jusqu'à 80, etc. Mais en même temps, dans le texte auquel tu pensais, c'est tellement beau, il est dit que quand nous étions formés dans le sein maternel, alors que nos os étaient formés, tous nos jours étaient écrits, alors qu'il n'y en avait encore aucun. C'est ça que c'est merveilleux? Tous mes jours étaient écrits. Alors pourquoi est-ce que je m'occuperais de la longueur de mes jours? Puisque le Seigneur les avait écrits, tout ce que je demande à Dieu, c'est que je puisse le glorifier tous les jours. Et comme Paul dit, pourvu que je puisse achever ma course. Parce qu'on peut se retrancher avant, ne me retranche pas avant la fin de mes jours. Voilà.
C'est bien, c'est bien. Donc avant de...